France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Intelligence artificielle, c'est la question dont on parle aujourd'hui, la suite dans les idées à propos du livre de Mathieu Cortel, Ni Dieu, ni IA, et à propos d'un autre livre co-signé par Pierre Cassou-Noguès, qui est également philosophe, et Gwenola Wagon, qui est artiste et chercheuse, Les images pyromanes, théorie fiction des IA génératives, et le livre paraît, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, chez UV Édition. Vous étiez venu, Gwenola Wagon, avec Pierre Cassou-Noguès dans une précédente émission. Je me rappelle, on était au Salon du Livre pour cette émission pour parler d'un livre de Pierre Cassou-Noguès sur ces questions et puis de votre travail commun. Ça fait déjà un certain nombre d'années maintenant que vous travaillez avec ces IA génératives et ce livre témoigne de cette déjà longue expérience compte tenu de la nouveauté quand même malgré tout de la technique, de la technologie que vous utilisez. Comment vous, pour commencer, vous situez-vous par rapport aux positions qu'a écarté Mathieu Cortel ? Vous n'êtes, vous non plus, ni technophobe, ni technophile, pour le dire de la façon la plus simple qui soit.
Oui, je pense que c'est très bien comme définition. Je suis ni technophobe ni technophile et j'apprécie beaucoup de ne pas être clivée entre ces deux pôles. Et c'est tout le contraire. Il s'agit plutôt de se positionner avec un aspect critique, mais aussi réflexif. Et le but de ce livre, c'était de réfléchir avec les images, par les images, dans les images génératives qu'on avait expérimenté depuis quelques années, Pierre Cassou-Noguès et moi, et aussi de pas se positionner trop à l'extérieur, c'est-à-dire d'utiliser l'expérimentation qu'on avait pu en faire comme une sorte de terrain anthropologique en quelque sorte, ou de territoire artistique et philosophique.
Vous avez même fait des safaris.
des explorations, des safaris dans un autre projet. Et là, il s'agissait en fait d'interroger plusieurs pôles, enfin plusieurs facettes des IA génératives, d'une certaine manière d'interroger aussi nos modes de vie, nos modes d'existence, puisqu'effectivement elles sont là, on vit avec elles, et elles font partie de nos vies, qu'on le veuille ou non, parce qu'elles sont, en fait, elles sont là partout. Et dans cette idée-là, on avait inventé en quelque sorte deux personnages qui s'appellent Max et Dorma, qui sont dans le livre nos alter ego, qui sont au départ des agents immobiliers un peu spéciaux, puisqu'ils vont vendre des villas fictives, fantasmées, puisque la région où ils habitent est progressivement vouée à être ensevelie sous l'eau, la montée des eaux qui concerne le littoral ouest, certaines régions qui sont déjà un peu menacées, et des incendies qui arrivent plus ou moins fréquemment suite aux changements et aux perturbations climatiques. Et donc ces villas fictives qu'ils vont créer vont être en quelque sorte une sorte d'habitat fantasmé pour des personnes qui n'auront plus leur mode d'habiter rêvé. Donc ils vont se projeter dans le fantasme. Et donc au départ, l'IA était de cette manière-là abordée pour une forme d'habiter entre le virtuel et le réel. Et puis ils vont vivre un méga incendie. Donc là, c'est pour de vrai. Dans la réalité, nous avons vécu les incendies des Landes en 2022. Et là, va se poser toute une question sur qu'est-ce que ça signifie que de regarder des images d'un incendie en train de le vivre, de les diffuser sur le réseau, de les percevoir et de jouir, inconsciemment ou non, de la dépense d'énergie. Et donc, progressivement dans le livre, va se faire le parallèle entre les IA génératives qui consomment de l'énergie, qui sont extrêmement et de plus en plus énergivores, et en même temps, une sorte de jouissance peut-être induite au spectateur, qui est aussi consommateur et parfois acteur de ces images, qui aurait une sorte de pure jouissance de cette pure énergie, je sais pas comment le dire, mais qui va provoquer chez lui c'est aussi un malaise en fait aussi, voilà, et peut-être une culpabilité, peut-être une fascination, tout ça à la fois, et ça va aussi faire partie de ce glissement de ces personnages qui vont essayer d'expliquer comment ça s'opère en fait.
Mathieu Cortel.
Je trouve ça très intéressant justement parce que je pense que comme vous, il y a quand même quelque chose qui se passe, une sorte d'hétérogénèse du sens qui se constitue avec les IA et qui forme des imaginaires, des qui participent de notre culture aujourd'hui. C'est pour ça que je critiquais les injonctions contradictoires et les situations paradoxales, mais je crois aussi qu'il y a un aspect très bénéfique à utiliser l'IA en tant que tel, sans s'aliéner avec, pour inventer du nouveau dans l'art, etc., à avoir une capacité justement expansive de créativité et d'inventivité. Et justement, si on peut en faire un outil propice à l'émergence de l'intelligence collective, c'est fascinant. En fait, c'est vrai, c'est pour ça que ça m'intéresse d'ailleurs, parce que c'est des objets quand même, des outils quand même incroyables pour l'imaginaire et l'inventivité.
Oui, Gwenola Wagon, l'expérience de l'IA, elle est absolument nécessaire. De toute façon, on n'a pas le choix, mais autant qu'elle soit réflexive.
Autant qu'elle soit réflexive et autant la vivre, ou en tout cas, moi, il y avait l'idée avec Pierre Kasounoguès d'en faire aussi une pédagogie, d'une certaine manière, de transmettre qu'est-ce que ça signifie, cette expérience de ces images générées. Et aussi, qu'est-ce que ça signifie, alors là je rejoins la bibliothèque de Babel de Borès, de finalement se retrouver à utiliser comme matériau indirectement toutes les images qui ont été collectées sur Internet, beaucoup libres de droit, le commun, certaines, une partie de l'histoire de l'art qui était tombée aussi dans le bien commun via par exemple Google Art Project, ou encore des images de tout le monde, des amateurs, et toutes ces images qui ont été donc amassées, collectées, c'est des sommes mais inimaginables en fait d'images, c'est une forme de bibliothèque, d'archives. Qu'est-ce que ça signifie de les donner aux autres utilisateurs sans qu'ils sachent exactement ce qu'ils manipulent et comment ils le manipulent, parce qu'ils n'ont pas effectivement tous les dessous de la boîte noire, et comment finalement, en s'emparant de ces matériaux, qui parfois c'est aussi l'histoire de l'art, on peut être aussi un peu kleptophane. Alors là, on a beaucoup inventé de mots, on a fait beaucoup de vocabulaire, et donc on a eu besoin de créer des mots pour décrire ça. On s'est dit c'est de la kleptophanie, ça serait le vol de la lumière. On volerait la lumière comme Turner s'inspirait de la lumière de Rome et qu'il l'a récupérée pour la transporter en Angleterre. Il y aurait ce vol indirect qui est pas forcément facile à définir. Vol, pas vol, pillage, pas pillage, emprunt, citation, plagiat, tout se mélange un peu. Et donc, pour essayer de l'expliquer, il y avait cette idée d'aller à l'intérieur de cette machinerie et d'expérimenter des choses tout en essayant aussi d'en faire une transmission, une œuvre transmissible, communicable pour la donner à comprendre.
Alors ça donne un livre, je l'ai peut-être pas assez dit, qui est un livre de textes et d'images, j'ai pas compté, mais à part égale pratiquement, mais dans un système de maquettes, c'est un très beau livre qui organise un rapport entre le texte et l'image très particulier.
Oui, tout à fait. En fait, il s'agissait de faire un dialogue. Pierre étant philosophe et moi artiste, on essayait de dialoguer en permanence sur ces modes de fabrication, sachant qu'aujourd'hui, les rôles parfois se retournent. Un philosophe peut faire des images, un artiste peut jouer avec des logiciels de texte, etc. Donc, il y a aussi un drôle de jeu qui s'opère aujourd'hui sur ces retournements de fabrication, ou en tout cas qui donne l'illusion qu'on pourrait, comme ça, par une opération de magie, être artiste tout un chacun, ce qui est assez jouissif aussi, d'ailleurs, mais effectivement un peu problématique. Et dans cette opération de dialogue, en fait, on essayait à chaque fois d'avancer un peu par petits pas, un peu comme si on explorait des mondes souterrains, et de se dire, bon, bah voilà, cette plateforme-là, elle utilise ce type d'algorithme, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Est-ce qu'on peut, par exemple, retrouver les sources aussi? C'était la question. Est-ce qu'on peut retrouver Friedrich et Turner à l'intérieur d'une base de données et voir comment la lumière, elle a été récupérée? Est-ce qu'on peut le prouver par l'image? Donc, il y avait des tentatives aussi de se dire... Ah oui, le wanderer de Friedrich, l'homme au-dessus de la mer de nuages, le voyageur au-dessus de la mer de nuages.
Finalement, l'image romantique par excellence.
Voilà, ça devient un poncif de ces IA parce qu'on le voit partout, il se transporte tout le temps. Est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer de lui derrière son dos? Mais lui, est-ce qu'il se laisse faire ou pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de déposséder? Comment nous aussi, on devient un peu ce wanderer indirectement? Et donc, c'était un drôle de jeu qu'on jouait, sachant que c'est aussi, alors là, je pensais beaucoup à ce que vous disiez sur la manière dont ça opère aussi par addiction. Et donc là, on a beaucoup travaillé sur l'addiction. Et je pense aussi à la manière dont ce jeu, qui est aussi un jeu de langage et d'image, crée une sorte de tirage au sort. Alors, c'est pas comme si on mettait des pièces dans un casino. C'est comme si on met des mots dans un casino. Et au lieu d'avoir... rien ou des pièces, on a des retours d'images. Par exemple, 4 images, un carré, comme ça, ou des mots. Et à ce moment-là, c'est très jouissif parce qu'on se dit, ah oui, mais je peux retirer, comme ça, à l'infini, ce jeu d'images, c'est presque... Et en même temps, on va peut-être rien gagner, ça sera toujours déceptif, mais il y a cette espèce d'effet d'adrénaline qui opère, là où le joueur de casino pourrait dépenser tout son argent, sauf que là, ce qu'on dépense, c'est du temps. Alors ça, c'est...
Là, on est dans l'économie de l'attention.
Voilà, exactement. On retrouve l'économie de l'attention et on retrouve ce qu'on nomme aussi le TCD, le fameux temps de cerveau disponible, auquel on pourrait ajouter un H, le temps de cerveau hypnotique disponible. Ça serait le TCHD, ce moment où on est hypnotisé et tout le temps s'accapare. On le perd sans s'en rendre compte et ça fait aussi partie de ces processus des IA de nous prendre le plus de temps possible, puisque autant l'énergie est aussi pure jouissance, mais autant ce temps de cerveau est la monnaie, la valeur en quelque sorte, la nouvelle monnaie d'échange, en hommage à Yves Citon.
C'est-à-dire que ce temps qu'on offre aux IA, il est extrait, on est le matériau sur lequel cet extractivisme nouveau se nourrit, Mathieu Cortel.
Ben voilà, c'est le système de captation dont je parlais, c'est expropriation, exploitation de l'intelligence collective. Le fait est que on produit énormément d'intelligence collective aujourd'hui, et comme les dispositifs sont à peu près intercalés dans toutes nos relations, toutes nos créativités, toutes nos productions cognitives, en fait, toutes nos avirs cognitifs, eh bien, on a une captation immense. Là où c'est génial d'intégrer l'art là-dedans, c'est qu'on joue avec les règles. On va jouer avec l'IA. Et il y a, ça me fait penser là sur cette histoire de la bibliothèque de Babel. Il y avait cette hypothèse de Leibniz en disant bon, ce qu'il appelait l'horizon de la doctrine humaine, c'est-à-dire qu'en gros, si on faisait la bibliothèque de Babel, on a un nombre limité de symboles, on les agrège ensemble, donc le nombre de vérités et de mensonges de l'humanité, à un moment, arrive à terme. Et on ne fait que répéter ce qui a déjà été dit. Donc peut-être qu'on fait que répéter Turner, etc. On va faire que retrouver en fait ce qui a déjà été dit, les images. Est-ce qu'on est arrivé à ce moment de la culture là? Est-ce que en fait il y a un horizon de la doctrine humaine? Ce qui est drôle chez Leibniz, c'est justement qu'il dit que il est contre cette hypothèse qu'il s'inflige à lui-même, et il montre que non, en fait on peut y échapper en permanence, et que d'une certaine manière, il y a d'autres textes qui reprennent là-dessus, en montrant qu'en jouant avec ces termes, en jouant avec les images qui existent déjà, etc. On y échappe. Et c'est là où en fin de compte, on n'est pas victime de la règle, où on ne fait pas que colporter des normes prédéterminées dans une sorte d'inconscient machinique qui produit inlassablement le même. On va jouer à la différence et créer cette hétérogénèse différentielle qui va amener du nouveau et de l'inventivité.
Benoît Wagon.
Oui, tout à fait. Et ce que j'ajouterais aussi, une chose dont j'ai pas parlé qui est assez importante, c'est la question du voyage dans le temps. Alors, il faut souvent, le parallèle qu'on fait dans le livre, c'est d'imaginer que le temps c'est devenu de l'espace avec l'espace latent. Donc on se promène dans un espace très très grand, immense, infini, pas infini mais indéfiniment long. Et dans ce temps très 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 long qui est devenu un espace, on peut imaginer visiter des périodes du passé ou du futur, et même d'un temps où il n'y a pas d'image. Un temps où il n'y aurait jamais eu d'image. Ce que la peinture faisait, mais la peinture le faisait avec le style du peintre. Et là, c'est une facture photographique. Donc, ça donne un aspect crédible aux images. Donc, on se projette un peu dans un passé, je sais pas, néolithique, où des hommes du néolithique prendraient des selfies, par exemple. Ou encore, on se baladerait pendant la crue de 1910 à Paris, et on serait sur une barque, avec la facture du daguerréotype. Alors c'est des illusions, c'est des fictions, si on est spécialiste de ces périodes, on se rend compte que c'est fictif, mais dans un aperçu comme ça, un peu rapide, les choses passant, on peut s'y croire, et on peut s'imaginer aussi dans des périodes futures, et cette espèce d'émurge, de donner à l'utilisateur cette possibilité-là d'utiliser ce voyage dans le temps, et ça fait aussi partie de ce qu'on appelle les anarchives, c'est-à-dire le moment où l'archive s'explose en quelque sorte, elle devient un peu anarchique, parce qu'on peut donner à l'archive d'autres factures, d'autres temps, d'autres histoires, des temps parallèles. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup exploré et qui nous a passionnés aussi.
C'est un chapitre de cet ouvrage, Les images, pyromane, théorie fiction des IA génératives, que vous co-signez Gwenaëlle Wagon avec Pierre Cassou-Noguez. On parlait aussi de Ni Dieu ni IA de Mathieu Cortel. Gwenaëlle Wagon, on pourra voir une œuvre de vous, un film aussi dont l'exposition qui va ouvrir autour de l'intelligence artificielle au Jeu de Paume très prochainement, à la mi-avril, avec beaucoup d'artistes qui se sont emparés de cette question.